blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission autour de ce personnage. Donc Linaïère, on l'a bien compris, vous nous l'avez expliqué, personnage historique, défilé de jeunes femmes hein, devant l'impératrice à Pékin pendant cette révolte des boxers. Vous romancez son histoire avec une histoire de la pauvreté déjà. Mm-hmm. Quelqu'un qui vient d'un milieu très très modeste.
Oui, alors d'un milieu très modeste, donc c'est la fille d'un batelier. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu deux métiers, voire peut-être trois, qui permettent de faire les liens entre toutes les strates de la société. Parce que les artistes de cirque, évidemment, rencontrent plein de gens.
Les filles de batelière, elle va devenir artiste de cirque.
Donc elle va dans les. Elle connaît la culture, la musique, les danses, elle connaît sa culture. Et puis, prostituée, évidemment, j'imagine qu'on rencontre pas mal de monde. Et puis, guérisseuse, tout le monde peut être amené, quand on souffre, à aller voir un guérisseur pour lui demander conseil. Et visible, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai imaginé, comme quelqu'un qui, vient de la pauvreté, vient de l'humilité, mais qui est capable de passer toutes les portes et d'aller à la rencontre de tout le monde, en fait.
Ça lui permet, ce chemin-là que vous inventez, ou en tout cas que vous inventez à moitié, lui permet de connaître les pauvres, connaître les riches, parce que comme guérisseuse, elle va avoir affaire aux riches, ceux qui connaissent les trames de ce qui se passe, parce qu'on a décrit une opposition frontale entre la Chine et l'Occident. On peut aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui des collabos, de ceux qui voulaient aller dans ce système-là, ceux qui ont retiré des richesses. Mm-hmm. Donc elle comprend, elle connaît tout ça, et vous en faites quelqu'un de très réticent. Elle veut pas aller à la baston. C'est pas une passion. J'utilisais le mot passionnariat, c'est pas ça en fait.
Moi je l'imagine comme ça parce que pendant toute l'écriture du roman, je me suis dit mais peut-être que c'est une mystificatrice cette femme, parce que justement comment si on est guérisseur, donc on a ce don, c'est pour faire le bien, et évidemment que si on en fait quelque chose de pas bien, il est retiré, c'est un peu ce qu'ils disent, et du coup pour moi ça ne marchait pas, et je me dis mais alors comment, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à en faire quelque chose de bien, parce qu'elle a cette réputation quand même d'avoir fait du bien à beaucoup de gens. Donc si c'est une mystificatrice qui a juste été là, puis qui c'est, je sais pas, quelqu'un qui avait la haine contre les étrangers comme tous les autres, bon c'est possible, mais je ne l'imagine pas comme ça. Moi je l'imagine plutôt parce que en fait il y a eu un avant et un après. Après Linaïère, les femmes sont sorties de chez elles. C'est quelque chose qu'elles ne faisaient pas avant, mais après ces milices. Il y a eu des femmes journalistes, il y a même une femme condamnée à mort pour outrage politique. Enfin, tout à coup, elles ont existé. Donc, elle a déverrouillé quelque chose.
Elle reste, on peut faire un parallèle foireux avec Jeanne d'Arc, mais elle reste quelqu'un en Chine aujourd'hui, cette Linaïère.
Oui,
elle reste dans les mémoires, elle reste
statue,
une personne.
Oui. Oui, donc moi je l'ai imaginée comme ça, réticente, parce que je ne comprenais pas, parce que vraiment, moi ce qui m'intéressait, c'était ce destin de guérisseuse, en fait. Voilà, comment, dans une période de guerre et de haine, garder finalement un cap. Et alors, j'ai imaginé une histoire comme ça, qui me paraissait plausible.
Le Lotus Jaune, c'est le titre de votre roman, c'est aussi le nom de son école, son havre, qu'elle crée justement pour recueillir des jeunes filles abandonnées. On n'a pas parlé de ça, mais il y a la fin.
Oui.
J'ai pas noté le passage, mais il y a un moment terrible où sur un paragraphe, vous décrivez la famine dans les campagnes, et vous terminez par, très sobrement, ils ont mangé de l'herbe.
Oui, et ça c'est historique, ça je l'ai pris dans les livres d'histoire, ils ont vraiment mangé de l'herbe, mangé des vers. Parce qu'il y a eu plusieurs séries d'inondations où il y a eu, je crois, 3 ou 4 hivers où les paysans n'ont pas cultivé.
Elle recueille ces femmes, elle les forme, elle leur donne un gîte, mais aussi une formation dans les métiers du cirque, d'ailleurs, qu'elle connaît bien. Certaines, elles veulent en faire des guérisseuses aussi, si elles perçoivent le don. Et puis, ça va devenir une des milices de cette révolte des boxers, les Lanternes Rouges. Voilà. Ça aussi, c'est historique.
Ça, c'est historique. Alors, les Lanternes Rouges, c'était une des milices, d'ailleurs, justement, parce qu'il y avait les Lanternes rouges, les lanternes bleues, les lanternes vertes, les lanternes noires. Et en fait, ces femmes étaient organisées par classe d'âge, ou alors les veuves, les mères. Et puis les lanternes rouges, c'était les jeunes, les vierges, donc évidemment les plus jolies, qu'on mettait en rouge, donc bien visibles. Et donc c'est ça que je pense l'histoire a retenu. Mais elles étaient organisées vraiment, elles étaient ensemble en fait. Et ça, j'ai trouvé aussi très beau dans l'histoire de Linaïère, c'est qu'elle a mis ces gens ensemble. Et ça, c'est une tradition chinoise. qui méritent, je crois, d'être connues, c'est justement ces sociétés d'entraide, hein, et qui sont à l'origine, hein, de ces boxeurs qui sont des congrégations de gens à la limite des mafiosos, hein, mais
on a dit boxeurs, c'est un peu vulgaire, hein, c'est un peu occidental. Eux, c'était la milice du poing et de l'harmonie, hein,
ouais, c'est tout ça. Même autre chose. Le poing de la justice et de l'harmonie, ouais. Oui, c'est bon. Alors, il y a plusieurs traductions qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, on imagine ce poing levé,
avec cette idée d'harmonie toujours présente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elle connaît tous les milieux par son parcours, elle parle aussi avec tous les milieux, et ça, c'est pour moi une grande réussite de votre livre. C'est que vous ne nous abrutissez pas d'abord de noms de famille compliqués pour nous, hein, parce que contre-intuitifs, difficiles. Vous donnez des surnoms à certains des personnages, et puis par son travail de guérisseuse, bah, elle va parler à quelqu'un qui est très en cours, donc qui est un commerçant ou un intellectuel qui a une vision de ce qui se passe d'un point de vue politique. Elle va aussi parler aux pauvres, et donc on a finalement une histoire globale de cette révolte des boxeurs dans tous les camps, grâce à elle et grâce à ses rencontres et à ses discussions un peu philosophiques souvent autour de ces événements.
Oui, alors tout à fait. Donc ces personnages, j'avais besoin d'eux en fait, hein, pour expliquer l'histoire, parce que je vous dis, c'est l'histoire de Linéaire, ça fait partie de ce contexte à ce moment-là, dans ce pays-là, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, zut, j'ai perdu le fil. Vous me disiez au fait qu'elle.
Elle permet d'avoir une vision globale. Je pense pas qu'il y ait trop à rajouter là-dessus, grâce à ces rencontres justement, et à la façon. Je vous disais que c'était une réussite, que vous le faites de façon très harmonieuse. Hein, ce sont des rencontres naturelles, des discussions naturelles qui nous permettent de comprendre le contexte historique. J'aimerais qu'on termine cette discussion avec justement comment l'Europe et comment votre livre nous crie. Et ça, je trouve très important ce qu'a été la colonisation, hein, dans un cas précis qui est celui de la Chine. Il n'y a pas eu d'occupation territoriale, mais il y a eu des méthodes de voyous. On a parlé de la guerre de l'opium tout à l'heure. Il y a eu des conversions, on convertissait des gens, on leur donnait ensuite des avantages matériels parce qu'on arrivait avec l'argent. Les chrétiens du riz, hein.
Ah, attends, je ne connaissais pas cette expression, mais oui, ça sonne.
Je l'ai trouvé chez vous, les chrétiens du riz.
C'est vrai?
Oui.
Bah,
non,
alors. Ça sonne bien.
Ou je l'ai peut-être trouvé alors dans des recherches parallèles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on donnait du riz à des convertis, ce qui leur permettait d'échapper à la famine.
Oui, tout à fait. Et justement, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils ont pris le parti de payer jusqu'au dernier centime les énormes indemnités que leur réclamaient les 8 nations qui avaient gagné cette guerre. Et après, moi, je m'interroge parce qu'on regarde tout ça d'un air en disant, ah oui, vraiment, les Européens, quels voyous, et puis ces missionnaires, quelle horreur quand même de convertir. Mais en fait, alors, on en parlait tout à l'heure, on refait le passé, on refait le procès du passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Moi, je me demande, j'entends beaucoup de gens quand je leur parle de la Chine, disent qu'ils ont peur, oh, ça fait peur, et puis quand même, la démocratie, la liberté individuelle, etc. Alors, moi, je suis un produit de la démocratie, de la liberté individuelle, donc bien sûr, je suis convaincue, mais comme les missionnaires étaient convaincus à l'époque. Et je me demande si de brandir toujours nos propres convictions, parce qu'on a vécu dedans, parce qu'on est issu de ça, et puis qu'on en trouve. Brandir ça en disant, vous nous faites peur parce que vous n'êtes pas comme nous. Je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose quand même. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais je pense que la démarche n'est pas...
On est peut-être dans une position inférieure aujourd'hui qui dit que passons à autre chose. Hein, mais la plaie, la blessure, elle demeure. Il y a une humiliation terrible d'une civilisation, encore une fois millénaire, en Chine, et qui explique comment le monde, on appelle ça le Sud global aujourd'hui, nous voit. Hein.
Comme des gens,
en Afrique, que ce soit en Asie,
comme des gens pas très crédibles,
Sud,
et pas très sympas, oui, et commercialement très agressifs, et on est étonné, hein, beaucoup d'entreprises souffrent de la concurrence chinoise en Suisse et en Europe, on est étonné, mais je pense que, moi je ne suis pas si étonné que ça, après avoir fait les recherches que j'ai fait pour ce roman, je pense que c'est, oui, ce serait pas mal qu'on s'intéresse un peu à eux, essayer de se comprendre avant d'essayer de se transformer.
J'ai eu, grâce à votre livre, une confirmation de ce que j'avais entendu dans des conférences de géopolitologues qui disaient, mais il faut bien comprendre que dans chaque cerveau chinois, il y a encore l'humiliation des guerres de l'opium, l'humiliation du siècle de l'humiliation.
Parce que je crois que c'est comme ça que s'appelle le chapitre d'histoire à l'école. Hein. Ouais. Le siècle de, comme nous, on a, je sais pas, la première guerre, ils ont le siècle de l'humiliation. Ouais. Donc forcément, c'est l'image qu'on a n'est pas idéale. Alors l'image qu'ils ont en Europe, apparemment, il y a de moins en moins de gens qui prennent des cours de mandarin, les instituts Confucius ferment, donc. J'ai l'impression que finalement par rapport à il y a 30 ans où on s'intéressait, on regardait ces films et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, c'est dommage, parce que c'est une belle culture et puis je pense qu'on a quand même beaucoup en commun. Et justement moi pour écrire ce roman, je suis partie plutôt que de me dire oh là là la Chine c'est compliqué, tous ces noms bizarres et tous ces lieux et toute cette histoire que je connais pas, mais j'ai essayé de partir de ce qu'on avait, de ce qu'on a en commun en fait. Et je pense qu'on voilà, on est des êtres humains avec ils aiment le cirque moi aussi, enfin il y a plein de trucs,
j'aime la cuisine aussi.
Voilà. Je pense qu'il faut partir du simple, ouais. En fait.
Moi, j'ai trouvé très fascinant de voir la différence de civilisation entre une civilisation vraiment basée sur l'objectif. Hein. Il faut réussir l'objectif. C'est la civilisation européenne qui a eu son triomphe grâce à ça. Et une civilisation chinoise, à cette époque-là, aujourd'hui, elle a compris comment marchait le monde, mais à cette époque-là, basée plutôt sur l'harmonie. Alors, c'était pas joyeux. Hein. Il y avait des pauvres très pauvres.
Ils étaient pas mal impérialistes, hein, le Tibet, tout ça. Enfin, c'était...
mais dans des frontières proches, quoi. Hein.
Bah, je crois qu'ils étaient pas mal impérialistes. Par contre, ce qu'ils avaient pas vu venir, c'était vraiment l'industrialisation. Mmh. Et ça a fait des ravages aussi en Europe. D'ailleurs, la plupart des colons qui sont partis conquérir le monde, c'est ceux qui trouvaient pas leur place en Europe, parce que les vieilles familles qui ont été poussées.
Il y a un moment très intéressant où vous dites, il y a une description de l'intellectuel qui dit ceux qui viennent chez nous, c'est les frustrés. Hein.
C'est les aventuriers qui veulent c'est l'ambition en fait. Et ça, je pense que c'est très humain en fait. Cette ambition, on veut être riche. Et d'ailleurs, les Chinois, eux, l'assumaient complètement dans leur programme politique. Hein. Les 10 dernières années, ils voulaient être riches et c'est pour ça qu'ils sont devenus l'usine du monde pour s'enrichir, pour sortir de cette misère. Et je pense que c'est important quand même que tant qu'il y aura de la misère, il y aura des trucs bizarres qui vont se passer, mais que ce serait bien que tout le monde en sorte.
Bon, votre livre, Hélène Jacobet, nous permet de mieux comprendre le monde, mais surtout de suivre la vie, les aventures parfois palpitantes, parfois calmes, parfois sereines et calmes de cette jeune femme, Lynn Ayer, donc personnage historique qui devient une figure de cette révolte des boxeurs. Merci.
Merci à vous.
Voilà, un livre paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et Favre. Voilà, au revoir.
Au revoir, merci.